en reconnaissant l'indépendance de ces deux républiques séparatistes, trois jours avant le début de son invasion de toute l'Ukraine, Vladimir Poutine met un terme à 8 ans de négociations autour du conflit au Donbass. Une guerre avant la guerre, longtemps oubliée, mais qui ravageait cette région de l'est de l'Ukraine depuis 2014.
On cherchait une solution diplomatique. Poutine aurait pu l'obtenir s'il avait voulu. En réalité, il voulait toute l'Ukraine. C'est assez clair désormais.
L'affaire ukrainienne, c'est une affaire d'abord européenne. C'est sur notre continent que ça se produit. Et donc ça a obligé les Européens, pas simplement par des sanctions, mais par aussi la diplomatie et le rapport de force, à prendre leurs responsabilités.
Envahissant l'Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine stoppe 8 ans de négociations sur le conflit au Donbass. Une guerre avant la guerre, longtemps ignorée. Et grâce à l'archive et à la parole des hauts responsables qui ont participé à ces échanges diplomatiques, le film documentaire « Ukraine, chronique d'une guerre annoncée » de Anne Poiret et Émile Rabaté, qui était proposé dans la sélection Terre d'Histoire lors de la 30e édition du FIGRA, Festival du Grand Reportage d'Actualité et du Film Documentaire de Société, qui s'est déroulé à Douai du 30 mai au 4 juin dernier, montre ce qui était alors déjà en jeu. Les faiblesses de l'Europe vis-à-vis de Poutine et le retour de la dynamique de la guerre froide. Les récits géopolitiques et intimes se répondent pour apporter un nouvel éclairage sur cette guerre aux portes de l'Europe. Avant de retrouver la réalisatrice Anne Poiret en interview, je vous propose d'entendre d'abord les témoignages d'une lycéenne et d'une Ukrainienne accompagnée de son mari français, propos recueillis à l'issue de la projection. Tu viens de quel lycée ?
Lycée Pasteur à Lille.
Ton ressenti général sur le film, qui n'était pas évident à comprendre au départ ?
Moi justement j'ai trouvé plutôt facile. Après je suis renseignée parce que je vais faire mon oral de fin d'année sur ce sujet, donc forcément je m'y connais déjà un petit peu. Mais je l'ai trouvé très clair et j'ai trouvé ça très intéressant, la simplification du côté géopolitique, parce que ça peut être compliqué à premier abord. Mais honnêtement, tout ce qui est les accords de Minsk, etc., j'ai plutôt compris, alors que honnêtement, je ne connaissais même pas pour la plupart.
J'imagine que le Donbass, ça te parle mieux maintenant qu'avant, parce que pour tout le monde, c'est un peu compliqué. C'est une frontière entre la Russie et l'Ukraine qui est assez ambiguë. Ton avis là-dessus ?
Mon avis, moi, je soutiens l'Ukraine et je trouve ça dommage de voir un pays qui se déchire autant. Après, pour moi, c'est comme la situation en ex-Yougoslavie, c'est des pays avec des enclaves à l'intérieur, des peuples qui sont... Donc pour moi, c'est très compliqué et il faut juste accepter les frontières. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre un autre pays, ça veut juste dire qu'on respecte sa frontière, on respecte sa patrie. Voilà.
Tu es ukrainienne, tu peux nous dire ton point de vue alors sur le film en général. Est-ce qu'il a été bien traité au niveau contexte géopolitique ?
Alors le film est très bien fait en tout cas, il est très bien présenté. Voilà, donc je remercie les réalisateurs en premier. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur tous les sujets qu'on découvre dans ce film. Je ne suis pas particulièrement d'accord avec les politiciens, mais ça m'a fait plaisir de les revoir encore une fois dans le film. Donc... pour vous dire que je pense qu'on sera jamais, on va jamais pouvoir nous séparer avec la Russie. Je pense qu'on sera toujours à vie, avec un jour le conflit se terminera. Mais ce que je pense en plus, c'est que les Occidentaux devraient se tenir un peu et regarder de loin. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord sur la livraison des armes à l'Ukraine, puisque ça ne fait qu'aggraver le conflit.
Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrête ? Parce qu'on a l'impression que finalement Vladimir Poutine va aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive.
Alors je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il va aller jusqu'au bout. Alors, je ne suis pas tout à fait pour la politique de Poutine, je ne suis pas du tout pour la politique de Poutine, mais je ne pense pas qu'il va envahir l'Ukraine, comme les Occidentaux le pensent.
Eh ben merci beaucoup. Et vous avez vu d'autres films sur l'Ukraine? Parce qu'il y en a pas mal quand même. Hein.
Alors, j'ai vu, il y a, avant-hier, j'ai vu encore un film.
Oui, celui de Xenia.
La fin du monde russe, il me semble, c'est bien ça. Donc voilà, alors on peut discuter aussi. Je peux dire ce que j'en pense. Alors pareil, le film était bien fait. Mais une question intéressante a été dévoilée dans ce film, c'est le sujet de la langue russe, justement. Donc moi, je suis ukrainienne russophone.
Et d'originaire de quelle région?
Alors de la région de Dniepr, la ville de Dniepr. Voilà, la langue russe, c'est ma langue maternelle, qui est très sacrée pour moi, effectivement. Et dans le film, on a dit que seulement 8 millions d'Ukrainiens parlent russe. Alors, je vous affirme que c'est faux.
D'accord.
C'est que chaque Ukrainien sait parler russe et parle très, très bien. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons cette politique qui fait qu'il faut oublier la langue russe, mais je pense que ça ne pourra jamais arriver. Voilà.
Vous êtes intervenu quand même. Vous avez parlé de l'OTAN. Alors, c'était quoi exactement?
Ouais, donc en fait, le sujet, c'est que sans tenir avec la Russie, enfin, je suis plus ukrainien quand même, avec ma femme, c'est normal. Mais donc, depuis la fin de l'Union soviétique, la Russie avait bien précisé qu'il ne voulait pas l'expansion de l'OTAN, donc en Europe. Parce que c'est un très grand pays, c'est très difficile à protéger, la Russie. Donc, ils sont obligés d'avoir des alliés tout autour. Et donc l'OTAN n'a pas cessé de s'étendre, on va dire. Donc jusqu'aux frontières de la Russie, donc,
oui.
Avec le Donbass, il y avait des soldats américains, je vous disais, donc, même une semaine avant le début de la guerre. Donc,
vous pensez que c'est une coïncidence?
Non. Alors, c'est vrai que c'est, si je dis ça, on va dire un peu que je tiens avec la Russie, mais quand même, j'essaie de trouver une explication, vous voyez.
Oui,
alors,
oui.
Bien sûr que c'était une erreur de commencer la guerre, je tiens pas avec Poutine pour ça, quoi. Et j'essaie de trouver une explication. Et donc, dans ce reportage, on n'a pas beaucoup parlé non plus de l'ingérence des Américains. Par exemple, le fils de Biden, qui gagnait 60 000 euros par mois. Donc, c'est quoi la compagnie pétrolière ukrainienne? Comment elle s'appelle? Enfin, il gérait la plus grosse compagnie pétrolière...
C'est pas le Nord Stream, non?
D'Ukraine. C'est prouvé qu'il a touché 60 000 euros par mois, le fils de Biden, alors qu'en fait, il était difficilement joignable, même, on ne savait pas où il travaillait.
D'accord.
Ah, c'est toutes des choses comme ça qui me font dire que les Américains ont quand même poussé à la guerre. Quoi.
Voilà.
Pendant 8 ans, les Occidentaux, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont tenté de régler la guerre au Donbass, multipliant les rencontres, les formats de négociation et de vaines formules d'accord. Les puissances occidentales ont-elles tout mis en œuvre pour éviter l'invasion de l'Ukraine en février 2022? Que cela dit-il de leur attitude face à Vladimir Poutine pendant toutes ces années?
Les pays occidentaux ont longtemps fondé leur politique sur l'idée qu'on ne se fâche pas avec la Russie. Mieux vaut sacrifier l'Ukraine.
La dissuasion repose sur l'armement, mais surtout sur la volonté politique. Vladimir Poutine nous a jaugés et a déclaré qu'on ne lui faisait pas peur.
Je savais que Poutine était agressif et impitoyable, mais pas imprudent. Je me disais, il ne va pas faire ça. Il n'est pas fou à ce point. Et pourtant, il l'a fait.
On retrouve à présent Anne Poiret, la réalisatrice, qui nous parle de la conception de ce film documentaire. Anne Poiret, bonjour.
Bonjour.
Donc réalisatrice du film Chronique d'une guerre annoncée. Alors il y a eu une présentation tout à l'heure avec un petit débat avec le public. Alors qu'est-ce qu'on vous a posé comme question et quelles ont été les réactions un peu du public?
Alors les réactions que donc c'est des réactions de scolaires parce qu'il y a beaucoup de d'élèves qui étaient là, des élèves de terminale du lycée de Douai de Lille et puis des, du public normal, j'ai envie de dire. Il y a des réactions d'émotion par rapport à ces gens qui vivaient le long de la ligne de contact et avec des gens très touchés, je crois, par ces récits de vie et ce que ces gens ont traversé pendant 8 ans. Il y a des réactions de... Il y a aussi des questions sur comment on s'y prend pour fabriquer un film, pour le vendre, toute cette partie un peu technique du métier. Et puis, comment est-ce qu'on rentre en contact avec des diplomates, comment on les interviewe, comment parfois on déjoue la langue de bois de certains, des uns et des autres, les narratifs différents. Donc, c'est toujours super riche et très intéressant d'avoir ces feedbacks, surtout des élèves. J'avoue que c'est toujours... très rafraîchissant. Il y a toujours des questions sur l'émotion, par exemple. Comment est-ce qu'on reste à sa place, finalement, de journaliste? Et est-ce qu'on n'est pas tenté d'aller aider ces gens? Et comment est-ce qu'on reste... comment est-ce qu'on ne se laisse pas emporter dans l'émotion aussi, quoi?
Le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique vraiment le contexte géopolitique qui est toujours pas simple à comprendre. Toutes les négociations qui ont été engagées, qui finalement ont pratiquement tous échoué. Et puis, votre film a été fait en 2 temps, ce qui n'était pas prévu au départ, d'ailleurs, ce contexte au départ.
Alors, c'était absolument pas prévu. On devait faire un film sur un conflit oublié qui n'intéressait personne et qui était quasiment gelé depuis 8 ans. On avait commencé les préparations. Alors, en mai, en fait, il n'était pas tout à fait gelé parce que Vladimir Poutine avait déjà massé 100 000 hommes à la frontière ukrainienne, donc il y avait eu une espèce de, comme ça, de regain d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que ce conflit? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais c'était vraiment cantonné à des débats d'experts qui se sont vite arrêtés, et on a eu cette envie de se dire, on peut faire un film un peu qui revient sur ces 8 années où la France est partie prenante de ces négociations, parce qu'on faisait partie du format Normandie, notamment avec François Hollande, puis Emmanuel Macron, qui ont été des négociateurs directs de ce conflit, qui ont tenté de trouver des solutions. Et on se disait, donc il y avait une envie de la chaîne d'un film géopolitique, donc très analytique, comme ça, avec un peu un film de chaise, des gens qui racontent. Alors moi, je voulais pas d'experts, je voulais vraiment des gens qui avaient pu pouvaient dire « je » dans ces négociations. J'ai été là, j'ai discuté, j'ai parlé avec ce ministre américain ou russe ou ukrainien. Mais je tenais absolument à ce qu'on ait une autre ligne de récit qui soit les gens qui subissaient cette guerre depuis 8 ans, qui vivaient le long de la ligne de contact dans le Donbass, et qui, pour qui la situation, c'est des gens souvent extrêmement pauvres ou très âgés, qui n'avaient pas les moyens de partir de cette zone, et qui depuis 8 ans subissaient les atermoiements de la communauté internationale, parce que c'était pas sur place que les choses pouvaient se régler, mais c'était vraiment entre puissance. Et donc je voulais absolument qu'ils soient présents dans le film avec une approche très immersive, très sensible, très proche d'eux. Donc on avait repéré au printemps, en juin 2021, des deux villages, Opitné et puis près de Gorlinka à l'ouest, donc côté ukrainien, les deux villages côté ukrainien, parce qu'à cette époque, contrairement à ce qui a pu être dit plus tard, en tant que journaliste occidental, on n'avait absolument pas accès au côté des républiques séparatistes. Ils ne nous laissaient pas du tout l'accès, donc on ne pouvait documenter que cette partie-là de la ligne de contact. Et on a commencé à tourner en décembre 2021 avec l'idée que moi, je pourrais y retourner au printemps et montrer que les saisons passaient le long de la ligne de contact, le temps passait, qu'il ne se passait rien. Voilà. Et puis, voilà, on a filmé ces gens avec qui on a commencé à tisser des liens en décembre. Personne n'imaginait à ce moment-là qu'une invasion était possible. On s'était quand même dit, on va faire des interviews complètes si jamais on ne peut pas y retourner, mais on se disait... au pire, on ne pourra pas y retourner parce qu'ils vont rendre l'accès à cette zone plus compliqué. Ce sera difficile d'y aller, mais on n'avait absolument pas imaginé qu'il y aurait cette invasion. Et France Télévisions a acheté le film tout début février. Ils ont vraiment validé le film et lancé le film 15 jours avant l'invasion. Donc c'était vraiment un film qui est le même film, parce que c'est toujours ces deux lignes de narration et c'est toujours sur les 8 ans de guerre, mais évidemment complètement... avec une couleur complètement différente et qui est beaucoup plus sur l'échec complet en fait de ces négociations, avec cette question de qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment et puis évidemment des conséquences complètement différentes pour les personnes qu'on avait filmées. On a pu retrouver des gens qui ont fui tout de suite la ligne de contact, qui se retrouvaient dans la région de Kiev. Et c'est intéressant de noter que c'était deux femmes qui avaient vécu côté république séparatiste, donc elles savaient très très bien ce qui allait leur arriver si jamais les Russes prenaient le village. Et elles ont immédiatement fui. Et en revanche, les gens de Pitney, eux sont restés, sauf Nikolai qui est venu à Kiev à peu près au moment où on y était. Et sa mère est restée sur place. À un moment donné, on n'a plus réussi à la joindre. Et puis finalement, on a retrouvé sa trace. Elle est plutôt, elle a déménagé, mais elle est toujours dans le Donbass. Et en revanche, Sacha et Olga, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux. Donc on ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils sont passés côté russe. On ne sait absolument pas ce qu'il est arrivé à ces gens.
Alors, j'imagine aussi, du coup, qu'il y a eu un sacré boulot de montage, parce que vous avez dû faire des collages différents de ce qui était prévu au départ.
Bizarrement, non, parce que en fait, la chronologie est restée la même. C'est le début et la fin qui ne sont plus du tout les mêmes. Mais la chronologie et les moments importants, c'est-à-dire Maïdan, le départ de Yanukovych, l'arrivée de Porochenko, la mise en place du format Normandie, Minsk, les changements de gouvernement, les changements de président américain, la décision de livrer des armes ou de ne pas livrer des armes. Tout ça, ça reste les mêmes marqueurs et on les a entrelacés avec les gens sur le terrain de la même manière parce qu'ils ont toujours vécu à ces dates-là les mêmes choses. Ce qui évidemment a complètement changé, c'est la fin, c'est la conclusion de tout ça et ces gens qui sont dont les villages ont quand même été, dans les deux cas, complètement rasés. Et pour certains, sont à l'ouest du pays, près de Kiev, et d'autres sont probablement morts, ou en tout cas, on n'a plus jamais su ce qui leur était arrivé.
Alors, au travers de ces habitants, on imagine, c'est presque désert les villages d'ailleurs. Il y a quand même des moments très forts où une dame, je ne sais plus exactement, dit qu'il n'y a qu'un champ qui les sépare, et donc elle n'avait pas de nouvelles, où elle ne pouvait pas aller voir ni sa fille, ni son petit-fils. Et en même temps, il y a aussi des propos très déchirants de la famille qui sont pro-russes, avec quelqu'un qui est resté donc en Ukraine et qui disent c'est assez impressionnant. Comment et puis on les sent un petit peu, finalement, dans leur regard, enfin ça c'est peut-être mon avis personnel en visionnant les visages, et on les sent blasés en fait.
Alors blasés, je ne sais pas.
On imagine qu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas de retour en arrière, et que ça va s'empirer.
C'est probablement ce qui m'a le plus touché, moi, et que je trouve le plus inquiétant pour le long terme, c'est que cette guerre dans le Donbass a déchiré les familles d'une façon... Alors, ailleurs aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de couples où la femme était ukrainienne, le mari russe, où voilà, il y a des... Et avec des familles qui se détestent, des gens qui vivent en Russie d'origine ukrainienne, enfin voilà. Mais dans le Donbass, c'est très intime, et c'est pour ça qu'on voulait aussi, nous, filmer le long de la ligne de contact, c'est que les gens qui vivent là, évidemment, ils n'ont pas décidé de vivre là. Ceux qui sont là sont les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui n'ont pas d'autre choix, des gens souvent très âgés ou des gens extrêmement pauvres qui n'ont vraiment pas d'autre endroit où aller parce que vivre 8 ans dans cette zone de guerre, parfois dans cette espèce de no man's land ou entouré de militaires et des gens qui s'envoient des bombes, c'est un cauchemar qui dure 8 ans. Donc vraiment, si on peut l'éviter, les gens partent. Mais si les gens vivent là, c'est qu'ils ont souvent de la famille de l'autre côté, donc parfois de l'autre côté du champ. Et on a toujours pris des villages qui étaient vraiment le plus près de la ligne de contact. Donc effectivement, parfois, on voit de visu l'autre partie du village. Parfois, c'est de l'autre côté d'un champ. Parfois, c'est à quelques kilomètres. Et ces deux femmes, notamment Katia et Oksana, elles ont toutes les deux des histoires absolument dramatiques avec des frères, des sœurs ou des filles à qui elles pouvaient encore un petit peu parler avant l'invasion, en ne parlant pas de politique, mais avec qui la communication pouvait continuer. Parfois, il y avait quand même deux points, en dehors du Covid, parce que le Covid a figé tout ça, mais il y avait quand même des points d'entrée, donc les gens pouvaient faire des allées-venues, mais c'était très compliqué, il n'y avait que deux points de passage, mais ça restait pour les habitants impossible. Depuis février, il n'y a plus du tout de passage, quasiment plus. Alors, il faut vraiment faire tout le tour, ça c'est vraiment... vraiment impossible, mais surtout les familles, il n'y a plus de retour en arrière sur... les familles ne se parleront plus jamais, enfin entre une mère et une fille, il y a vraiment... C'est Oksana, elle a vraiment perdu ses deux filles, qui lui ont vraiment dit, soit tu viens nous rejoindre côté russe du Donbass, soit on ne te parlera plus jamais. Et donc, effectivement, elle a des propos très beaux dans le film, parce qu'elle nous dit, je leur souhaite tout le bonheur possible, c'est-à-dire que c'est vraiment une parole de maman pleine d'amour, mais en même temps, elle sait qu'il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus rien possible entre elles.
En ce qui concerne évidemment l'arrivée de Zelensky au pouvoir, j'ai interviewé une Ukrainienne tout à l'heure qui elle, m'a clairement dit qu'il était détesté en Ukraine, qu'il vivait bien avant 2014, alors que paradoxalement, nous en Europe, et notamment en France, est considéré comme un héros qui ne lâche pas son pays et qui luttera jusqu'au bout. Votre point de vue de journaliste peut-être là-dessus ?
Je pense que, alors moi j'ai brièvement discuté avec ces gens, elle est d'origine du Donbass, sa maman elle a grandi, en tout cas une partie de ce qu'elle m'a dit à Donetsk, sa maman est en France mais elle a été évacuée de là-bas et elle veut y retourner à Donetsk. Donc les gens qui sont à Donetsk, ils écoutent ce narratif, on le voit dans le film d'ailleurs. À partir de 2014, ils n'ont plus que la télé russe. Et des télés ukrainiennes de l'Ouest ont été coupées, donc ils sont dans ce narratif où effectivement avant 2014 tout allait bien parce que ils étaient dans une proximité avec la Russie et il n'y avait pas eu Maïdan, enfin voilà, donc c'est vraiment ces deux narratifs. Donc cette femme, quand elle tient ses propos sur Zelensky, elle les tient elle parle de quelque part. Donc après, elle a parfaitement le droit de le dire, mais c'est pas un point de vue qui est partagé en Ukraine de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est un point de vue, d'ailleurs, de gens aujourd'hui qui n'ont pas vraiment le choix d'être ukrainien ou pas, parce que quand on est là-bas, il faut avoir un passeport russe. Si vous n'avez pas un passeport russe, vous n'en êtes plus nulle part aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce sont des Russes. Mais voilà, c'est vraiment ça qui est le... Il le dit, Kouleba, à un moment donné, avec des propos très forts, d'ailleurs, qu'on peut ne pas partager en tant que Français, Européen, où on a quand même envie de dire, les médias sont libres. Mais c'est vrai que ce rapport aux faits, quand vous n'avez que ce rapport aux faits, et que vous n'avez pas d'autre exposition à cette réalité, ben, vous y adhérez. Et la fille d'Oksana, c'est ce qui s'est passé, elle a cru qu'elle était morte, elle a eu sa fille en plein bombardement pendant qu'un immeuble s'est écroulé sur elle. Il est documenté que cet immeuble s'est écroulé par un assaut russe, et le récit qui en a été fait, c'est que c'est des Ukrainiens qui ont bombardé son immeuble. Et donc, elle maintient à sa mère Mordicus qu'elle a failli mourir à cause des Ukrainiens, et elle lui dit, tu es avec... tu es avec le diable. Donc en fait, c'est impossible de réconcilier ces gens avant très 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 longtemps, puisqu'on ne leur raconte pas la même réalité. Donc en fait, ils ne peuvent pas se... Enfin, c'est ça qui est complètement fou et qui est terrible à voir, c'est que les gens se déchirent en étant persuadés que ce qu'ils pensent est vrai. Les gens du Donbass, ils sont persuadés qu'il y a eu un coup d'État, qu'en 2014, que c'est pas du tout légitime, qu'il y a plein de morts, qu'il y a eu des boucheries du côté ukrainien. Ils sont... Enfin voilà, il y a... Que tout est de la faute de Zelensky, des Américains, de l'OTAN. Enfin, c'est le narratif russe.
C'est un peu la stratégie de manipulation et de désinformation de Poutine. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, arrêter justement cette épopée, on va dire comme ça entre guillemets, de Poutine au niveau géopolitique?
C'est une très bonne question, je n'en ai pas la moindre idée. Ce qui est sûr, c'est que je pense que Kouleba le dit à la fin du film, ce qui est assez terrifiant d'ailleurs, ils disent maintenant il n'y a plus de négociation, c'est la guerre, et la guerre c'est le plus fort qui va gagner.
C'était un reportage autour du film documentaire « Ukraine, chronique d'une guerre annoncée » de Anne Poiret et Émile Rabaté, qui était proposé dans la sélection Terre d'Histoire lors de la 30e édition du FIGRA, Festival du grand reportage d'actualité et du film documentaire de société, et qui s'est déroulé à Douai du 30 mai au 4 juin dernier. Reportage illustré par la bande-annonce et quelques témoignages recueillis auprès du public à l'issue de la projection.